certain. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboumaï au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. L'Assemblée nationale a procédé mercredi 12 décembre dernier à l'adoption du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce texte de loi qui porte sur la réforme a apporté des innovations, notamment avec l'institution de deux organes, à savoir le bureau et l'Assemblée plénière. Par ailleurs, ce projet facilite la répartition claire des tâches et responsabilités administratives et opérationnelles au sein de l'institution électorale. Ainsi donc, la nouvelle CENI comprendra 13 membres de la plénière, soit 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Selon vous, quelles sont les conditions pour la réussite de cette réforme? C'est la question au cœur du débat. Réagissez déjà. Notre standard est ouvert et composé les 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir vos commentaires à notre adresse pa@radiokapi.net et aussi de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Koutou, Willem Lungamba et Pierrot Elameji réalisent cette émission. J.R. Lungimbo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nikon Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungimbo.
Une fois encore, merci de votre fidélité. Cette nouvelle loi accorde la présidence de la CENI à la société civile. Ces innovations visent, entre autres, une meilleure cohésion et une collégialité dans le processus décisionnel. Elles facilitent la répartition, comme je l'ai dit tantôt, des tâches et responsabilités administratives et opérationnelles au sein de l'institution électorale. Donc la nouvelle CENI comprendra donc 13 membres de la plénière, soit 6 de la majorité présidentielle, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Nous avons déjà reçu quelques correspondances des auditeurs qui ont déposé leurs commentaires sur notre page Facebook. Mouindo Luc Cambéré qui dit « Moi, je pense que depuis le régime colonial, jusqu'à présent, notre pays, la RDC, n'a jamais manqué de lois qui peuvent tout changer. Selon le désir des Congolais et surtout la potentialité du pays, ce qui manque, c'est l'applicabilité ou la façon d'appliquer ces lois. Pour moi, je doute que, même si à cette restructuration de la CENI que les choses marchent. Mouindo a été renchéri par Marcel Mungungu de Bukavu qui dit, comme on a toujours dit, la voix de la majorité qui compte. S'il s'agira des élections, alors on sera classé les indépendants. Ricky Fundi depuis Durban dit, la réforme est très bonne. Ce qui est très important, c'est la personne qu'on pourrait désigner à la tête de cette commission. Sinon, ça sera toujours la même chose. Voilà. Nous avons également quelques auditeurs qui sont déjà en ligne pour participer à ce débat. Maître Mashaka est à Lubumbashi et Étienne est à Guémena. Maître Mashaka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Selon vous, quelles sont les conditions pour la réussite de cette réforme? Un texte de loi qui porte d'ailleurs quelques innovations, notamment avec l'institution des deux organes, à savoir le bureau et l'Assemblée plénière.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Selon moi, mais c'est les journalistes, vous savez que avant toute chose, il fallait qu'on puisse d'abord dépolitiser la CENI. Tant que la CENI est politisée, en tout cas les histoires ne vont pas aller de l'avant, puisque que les membres là soient de la majorité, que ça soit de l'opposition, chacun cherchera toujours à agir selon sa tendance et à favoriser les candidats de sa tendance. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, mais bien qu'on parle de la société civile. Aujourd'hui, dans notre pays, monsieur le journaliste, la société civile même est politisée. Puisque si vous trouvez, tous les membres de la société civile, chacun a sa tendance politique. C'est-à-dire, bien qu'il soit là-bas, il agira toujours selon sa tendance politique. Puisque personne ne va pas me prouver que tous les membres là de la société civile n'ont pas de tendance politique. Ils ont toujours des sentiments. Ils peuvent être de la majorité ou être de l'opposition.
Oui, Maître Machaka, quand... c'est vrai qu'il y a, il y a des innovations. La loi passée, la société civile n'était pas comptée comme troisième composante côté de la majorité et l'opposition. La nouvelle loi place, en tout cas, la société civile comme une troisième composante. Ne pensez-vous pas que c'est quand même une innovation?
Bien que c'est une innovation, monsieur J.R., vous savez, là, en 2006, le président de la CENI était bien membre de la société civile, mais vous savez ce qui s'était passé.
Oui, mais
le problème
c'est
le changement de mentalité d'abord.
Oui, mais à cette époque, Maître Machaka, si on peut s'écouter, à cette époque-là, la société civile n'était pas la troisième composante. Il n'y avait que la majorité, d'une part, et de l'autre part, l'opposition. Donc, c'est vrai qu'on parlait de la société civile, mais il y avait au moins deux composantes.
Tout à fait, M. J.R. Bien sûr, la société civile aujourd'hui fait partie de la troisième composante, mais moi je ne suis pas sûr, mais malgré que la société civile fait partie de la troisième composante, que les histoires vont aller tant qu'il n'y a pas l'assistance des observateurs étrangers. Puisque, permettez-moi de donner cette proposition, puisqu'il y a ceux de nos compatriotes qui disent que non, appeler les étrangers, c'est nous considérer comme nous sommes les incapables. Tout à fait, nous sommes les incapables, puisque quand on nous laisse nous-mêmes diriger les histoires ne vont pas de l'avant. Sur ce, moi, je proposerai celle-ci, M. J.R. Bien qu'on a constitué la société civile comme une troisième composante de la CENI, il faut qu'il y ait l'assistance des observateurs international afin de nous permettre de créer une transparence dans ces histoires. Vous savez, on nous a laissé nous-mêmes la tâche ici en 2011. Vous-même, vous savez ce qui s'était passé.
Voilà, merci beaucoup Maître Machaka. Nous retenons que votre inquiétude tourne autour de deux points essentiels. D'abord la dépolitisation de la CENI et puis l'assistance des observateurs étrangers au niveau de la CENI d'ordre des élections. Merci beaucoup Maître Machaka. Nous aurons à avoir beaucoup plus de précisions avec notre invité qui est déjà en ligne. Mais nous prenons Étienne qui est à Guémena. Étienne, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Voilà, Étienne, vous avez suivi Maître Machaka qui a proposé disons, deux éléments pour que qu'il y ait la réussite donc de cette réforme. Donc il a parlé de la dépolitisation de la CENI ainsi que de l'assistance des observateurs étrangers. Alors, est-ce que vous partagez son avis ou selon vous, quelles sont les conditions pour la réussite de cette réforme?
Merci, Monsieur J. Je pense que je rejoins quelque peu Maître Machaka dans ce qu'il a dit. Il faudra que la société civile, la personne qui sera nommée, soit authentiquement de la société civile. Parce que, Monsieur J., nous sommes tous témoins et conscients des travaux que, en 2006, M. Malouma nous a fournis. En 2011, M. Ngolou Lunda, avec son équipe, nous a fournis. Maintenant que la société civile devient la troisième composante, il faudra maintenant que la société civile puisse tenir de tout ce poids, qu'on puisse vraiment chercher quelqu'un qui est neutre. Avec sa neutralité maintenant, il pourra peut-être, parce que on ne sait pas, on est des hommes, on peut prendre quelqu'un qui peut-être physiquement ne présente pas une apparence ou l'appartement politique, mais peut-être dans sa conscience, il appartient à une autre partie ou un parti ou une tendance politique donnée. Mais le souhait serait que nos amis de la société civile puissent faire un choix judicieux, de sorte que la personne qui sera là puisse vraiment vraiment donner un travail consistant, vraiment chercher à satisfaire le peuple congolais. Parce que les élections sont très capitales et nécessaires dans un pays. Il n'est pas dit que chaque fois on reçoit la démocratie du Congo, on doit toujours remettre en cause les élections, on doit toujours bouder, parler de la tricherie, parler de fraude, et surtout, s'il y a fraude dans des partis politiques, ok, s'il y a fraude, mais si on constate que c'est la CENI, l'organe habilité à organiser les élections, et aussi annexé dans tout ce qui est comme tricherie, tout ce qui est fraude, vraiment ce que nous regrettons. Mais nous pensons que c'est une bonne chose, cette réforme tombe bien, et On verra déjà dans l'organisation de la, des élections locales et des provinciales, on verra si vraiment en la fait, si vous pourrez nous donner vraiment quelqu'un qui sera en mesure de donner, de faire un travail vraiment préférable et précis pour le peuple congolais.
Voilà, merci beaucoup Étienne. Là vous rejoignez Maître Machaka, mais tout en proposant aussi quelques conditions. Vous parlez, donc vous en appelez à la conscience de la société civile et vous demandez à ce que la désignation de la personne puisse tenir compte de sa qualité, donc de pouvoir être exercer sa neutralité dans la gestion de la chose électorale de la question électorale. Voilà, donc vous vous demandez à ce que, c'est vrai, comme la réforme tombe à pic, disons, pour que, effectivement, cette implication de la société civile soit une implication qui pourrait apporter des bonnes choses. Merci, Étienne. Nous prenons Mozart qui est à Kisangani. Bonjour, Mozart.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot.
Oui, c'est plutôt JR qui est à l'antenne. Oui bonjour, Mozart, vous avez suivi tout à l'heure Maître Machaka et monsieur Etienne. Est-ce que vous rejoignez leur point de vue ou, selon vous, quelles sont les conditions pour la réussite de cette réforme?
Écoutez, c'est bien beau. Ce qu'on connaît que dans notre pays, nous avons toujours eu des bons textes. Et le problème se pose sur l'applicabilité. Et deuxièmement, c'est sur la qualité même des acteurs qui doivent donc respecter les textes ou les mettre en application. Alors, à ce qui est de la société civile, j'espère que c'est presque tout le monde qui attend à ce que cette structure puisse bien travailler. Et c'est ça l'entendement de tout le monde. Mais malheureusement, ce qui apparaît dans cette structure est que ce sont des gens qui sont facilement récupérable par les politiciens, quoi. Je pense qu'en 2006, on n'a pas traîné à dire que non, malou, tout ça. Je ne sais pas, tout le monde l'a traité ce qu'on a voulu, mais on ne sait pas là où était la réalité normalement. Bon, on savait qu'il venait de la société civile, c'était un abbé, tout ça, tel qu'on connaît la qualité de l'Église dans notre pays, mais cela n'a pas empêché les gens de douter de ces travaux. Alors, c'est de la même chose qu'on émet aussi des doutes sur la qualité des acteurs de la société civile qui seront recrutés pour le moment. Voilà. C'est à cela que je voulais émettre mon avis.
Merci beaucoup, Mozart. 081-890-63-15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs pour participer. 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Professeur Mbouibois Kalala, vous êtes analyste politique, vous êtes notre invité. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, professeur, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons évoqué tout à l'heure deux grandes innovations de cette réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons parlé du bureau et de l'Assemblée plénière. Ce sont là, comme on peut les considérer aujourd'hui, les principales innovations.
Oui, bon, disons, il y a ces éléments-là, mais il y a aussi le fait que dans la loi même, chaque membre du bureau a des attributions qui lui sont désignées déjà, qui lui sont attribuées, et ça c'est important parce que la situation qu'on a eue dans la dernière version, c'était que le président du bureau de la CENI pouvait tout faire seul, et parfois on l'a aussi reproché de travailler en solo. Or maintenant, tel qu'on a éclaté les attributions des membres du bureau en confiant à chaque membre son attribution, je crois que c'est une grande avancée, comme ces attributions sont fixées même par la loi. Donc ça, c'est un élément important. Comme innovation aussi, le fait là, de la société civile qui entre comme une composante, c'est une grande avancée. Hein. La fois passée, lorsqu'on a fait la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, il y avait beaucoup d'espoir que les acteurs de la société civile interviennent aussi dans le fonctionnement, mais concrètement, les composantes, les deux, la majorité et l'opposition, au moment où ils devraient désigner les membres, en tout cas, ils ne se sont plus rappelés ce qui était écrit dans la loi, hein, parce que il était censé que ces composantes, la majorité et l'opposition, désignent des gens qui étaient neutres et qui jouissaient d'une certaine indépendance par rapport aux forces politiques qu'ils avaient désignées. Hein, ça, c'était l'article 22 de la loi. Mais cet article n'a pas été observé. C'est ça qui a fait que finalement, ce sont les politiciens qui se sont mis dans les bureaux. On a eu des sénateurs qui ont accepté d'être membres ou des députés qui ont préféré être membres du bureau et finalement il n'y avait plus la différence entre ces membres du bureau en tant qu'acteurs politiques à part entière et le membre qui était souhaité neutre, jouissant d'une certaine indépendance par rapport aux forces politiques qu'ils avaient désignées. Ça a créé une grande difficulté. J'espère que cette fois-ci, ce sera possible que, avec la société civile comme troisième composante, il soit clair qu'il y a aussi des membres qui n'appartiennent à aucune formation politique. Encore que l'article 22 n'a pas été modifié. Ça veut dire que même les membres que les forces politiques vont désigner seront toujours tenus par cette indépendance-là.
Oui, professeur, c'est vrai que l'implication effective de la société civile comme troisième composante, à côté de la majorité et de l'opposition, est saluée des deux mains par plusieurs acteurs et plusieurs observateurs, notamment l'AETA, cette ONG, donc Agir pour des élections transparentes et apaisées. Mais la question sur la désignation en toute autonomie se pose encore. C'est vrai que la loi aussi a parlé de cette question.
Oui, oui, la désignation, vous savez, M. J.R., c'est un problème de responsabilité. Les partis politiques doivent être mis devant les responsabilités. Nous sommes dans une démocratie qui s'appuie sur le parti politique. C'est un choix qui a été fait et ce sont les partis politiques qui désignent les candidats aux élections. Ça veut dire que les partis politiques ont un grand intérêt à ce que la CENI soit vraiment un organe qui organise les élections en toute régularité. Et donc, dans ce sens-là, il faut que les membres de partis politiques, les responsables de partis politiques, prennent leurs responsabilités. Et donc, en quelque sorte, c'est la balle est jetée aux parlementaires. Ce sont les parlementaires qui mettent en place ces lois, toutes ces règles, c'est eux qui les conçoivent. Alors, ils ont aussi l'obligation de les respecter et de faire respecter l'esprit pour que le produit que nous aurons, la CENI, soit un produit fiable qui puisse faire un travail qui donne la paix au pays au lieu d'avoir un organe qui va créer des tensions. Donc, la CENI doit jouer ce rôle et je pense que c'est une bonne chose que ce soit toujours le parlementaire qui ait la responsabilité de désigner les gens. Comme c'est la deuxième fois, nous pourrons leur faire quand même confiance et espérer qu'ils tirent les leçons de la dernière désignation et qu'ils prennent les bons côtés pour que les acteurs qu'ils vont désigner fassent le travail en toute impartialité au niveau de la CENI.
Oui, il y a, c'est vrai, des auditeurs qui ont réagi avant vous, Maître Machaka notamment, qui a parlé, en fait, la question sur les conditions pour la réussite de cette réforme. Il a proposé, il a fait quelques propositions, notamment la dépolitisation de la CENI et aussi l'assistance des observateurs étrangers. Donc, s'ils peuvent intervenir aussi, disons, si pas d'une manière permanente, mais aussi que ce soit d'une manière ponctuelle. Ça pourrait crédibiliser aussi cette organisation.
Oui, oui, ça c'est possible. Mais vous, n'oubliez pas que nous sommes quand même un peuple. Nous avons droit à une certaine dignité, à une certaine respectabilité. Et donc, le député d'abord, ce soit les parlementaires qui désignent tous ces acteurs-là, c'est également eux qui mettent en place des règles. Donc, il faut que quelque part, on fasse confiance aux acteurs qu'on désigne. Et que ces acteurs-là, s'ils sont désignés conformément aux critères fixés dans la loi, il est possible que ces acteurs, quand même, fassent le travail correctement. Mais nous savons aussi que nous fonctionnons dans un contexte où il y a beaucoup de pression, et c'est toujours ces acteurs politiques qui font pression, parce que quand on parle d'élection, c'est une question de pouvoir. Et de ce point de vue, beaucoup de gens perdent la tête hein, quand il s'agit de pouvoir, et ils peuvent utiliser tous les moyens pour pouvoir accéder au pouvoir. Et je pense que la dernière expérience qu'on a eue avec toutes les difficultés que nous avons avec la communauté internationale et même au niveau national, je pense que les acteurs politiques congolais prennent la mesure de cela et qu'ils prennent des décisions en toute responsabilité. Parce que nous ne pourrons pas toujours nous méfier de nous-mêmes. Il faut que quelque part, nous nous fassions confiance et que les gens tirant les leçons du passé puissent poser un pas dans la bonne direction. C'est cela qui pourra être une certaine garantie. Hein. Sinon, à moins de dire, nous ne ferons pas confiance au Congolais, on va chercher les étrangers pour le faire, ce qui serait un drame. Donc, c'est à nous-mêmes de nous faire confiance. Nous espérons que, au niveau du Parlement, lorsque la question sera débattue, ils vont tirer toutes les leçons de la dernière expérience de désignation pour qu'ils désignent véritablement les membres qui jouissent d'une totale indépendance, comme l'article 22 de la loi le dit. Et cet article n'a pas été révisé, l'article reste valable, et nous pensons que les partis politiques vont désigner les gens, même si c'est désigné par les partis politiques, mais que ce soit des acteurs qui soient indépendants, qui font des travaux dans l'intérêt de notre pays et non dans l'intérêt d'un tel ou tel individu.
Oui, il y a un auditeur qui nous a écrit, hein, qui a émis quelques inquiétudes, entre autres au niveau de la décision à prendre au niveau de la plénière. Il s'inquiète pourquoi pas avoir le même nombre au niveau de l'opposition et de la majorité, et pourquoi la majorité 6. Donc il aimerait un peu avoir quelques précisions. Est-ce que là aussi ça pourrait pas créer des tensions?
Bon, le nombre, je crois que quand on regarde dans l'ensemble, la majorité n'a pas cette majorité-là. Hein. Quand on prend la société civile et l'opposition, en mettant les deux choses ensemble, les deux composantes là ensemble, la majorité n'a pas nécessairement la majorité parce qu'ils auront 6 sur 13. Donc ce n'est pas la majorité. Et même les gens de la majorité, nous croyons savoir que ces gens-là sont des Congolais et que lorsqu'ils seront à la CENI, ils seront tenus par cette obligation de travailler en toute indépendance et de travailler dans l'intérêt du pays. Ils ne seront pas là nécessairement pour faire n'importe quoi. Je ne pense pas que la situation que nous avons eue dernièrement est due au fait qu'il y avait la majorité des membres du bureau qui appartenaient à la majorité. Mais je pense que c'était un problème d'individus qui ont été désignés dans ces bureaux-là. Parce que ces individus ont quand même le devoir vis-à-vis de la nation, ils doivent rendre compte à la nation, organiser des élections transparentes, libres et apaisées, qui permettent au pays d'aller de l'avant au lieu d'être toujours attaqué, etc. Je crois que nous tous les Congolais ne sommes pas heureux d'être toujours dans les collimateurs de la communauté internationale, d'être toujours désignés comme les immoraux, comme les gens qui trichent toujours. C'est pas des réputations convenables pour un pays. Donc ce genre de choses devraient être combattues de tous côtés, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition et du côté de la société civile. Donc nous tous les Congolais, par rapport à la dignité, par rapport à l'honneur de notre pays, nous devions tomber d'accord pour que les gens qui sont arbitres soient véritablement des arbitres et que la CENI soit cet arbitre-là qu'on appelle de tous nos voeux.
Franklin est à Bukavu et Brejnev est à Bandundu. Bonjour Franklin.
Oui, bonjour Monsieur Gir, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à notre invité.
Oui Franklin, vous avez la parole.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre invité. Et moi je note aussi qu'il y a une avancée telle que l'a dit notre invité. Il y a des innovations. Avec cette présence de la société civile dans le bureau, je pense que c'est vraiment une innovation qu'il faut saluer. Mais je pense, moi je propose à cette société civile, parce qu'elle vient de faire son entrée à la Commission électorale nationale indépendante, il faut que nous choisissions un agent qui va faire la différence, qui va résister contre la corruption des acteurs politiques et qui va plaider pour que nous ayons des élections démocratiques. Parce que M. J.R., toutes les démocraties du monde organisent les élections, mais toutes les élections ne sont pas démocratiques. Et quand le parti politique est à la tête du pouvoir, je pense bien que le parti politique peut faire pour accéder au pouvoir. Deuxièmement, on sait bien que parmi les caractéristiques des partis politiques, il y a la volonté de conquérir et exercer son pouvoir, le pouvoir le plus longtemps que possible. Mais les partis doivent savoir qu'il y a une règle de vie. Cela voix à notre thème que nous avions, M. Fier, débattu le vendredi passé, il faut une autre citoyenneté. Même dans les chefs de partis politiques, il faut moraliser la vie politique en RDC. Après, ceux qui seront désignés par les partis politiques doivent aussi savoir qu'ils sont déjà au service de la nation. Ils ne sont plus au service de leur parti.
Oui, Franklin, est-ce que vous partagez l'avis de Mouindo Luc Kambéré qui nous a écrit de Béni en disant que ce qui fera encore la force de la CENI, c'est vrai, on s'est engagé à cette réforme, mais ce qui fera encore la force de cette organisation, c'est son indépendance financière. Il faudrait que dès le début, que le gouvernement congolais puisse disponibiliser de moyens, que cette organisation ait les moyens de sa politique. À ce niveau-là, il sera totalement indépendant pour éviter à ce qu'il revienne chaque fois demander au gouvernement de l'argent.
Oui, ça aussi, il faut qu'il y ait une marge budgétaire dans la loi financière. Il faut qu'il y ait une marge budgétaire de la CENI. Il ne faut pas que la CENI dépende toujours du gouvernement, chaque fois que le gouvernement dit « nous n'avons pas les moyens, il faut revoir les calendriers ». Non, ça aussi, c'est pour débattre le travail de la CENI. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Mouindo qui pense qu'il faut un moyen pour la CENI. Au-delà de ça, moi, j'ai quelques propositions. Au niveau d'abord de la société civile, je dis qu'il faut qu'on trouve un oiseau rare, la personne qui va résister, parce que j'ai appris que c'est la société civile qui va assumer la présidence.
Tout à fait.
Alors, le président doit être mûr, doit résister vraiment contre la corruption. Il faut aussi que ceux qui seront désignés par les partis politiques cessent de devenir avec l'idée de vouloir servir les partis politiques. Ils doivent savoir qu'ils sont là au service de la nation et que l'avenir de la nation dépend des travaux
qu'ils font. Et qu'est-ce que vous direz, Franklin, à ceux qui soutiennent la thèse que c'est lui qui sera désigné au niveau de la société civile, soit qu'il ait quand même une expertise sur la question électorale?
Mais tout à fait, parce que le président doit avoir une expérience. Ce qu'il vient faire, ce n'est pas lorsqu'il arrive à la CENI. Il va commencer à apprendre que non, c'est comme ça que ça gère les matières électorales. Je suis tout à fait d'accord. Il faut quelqu'un qui a une expérience. Il faut quelqu'un qui a vraiment une expérience. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi aussi, je propose pour la dernière proposition que les partis politiques, dès maintenant, les partis politiques doivent commencer à travailler la masse. Si vous voulez avoir la confiance de la masse, vous devez commencer par le travail de cette masse-là. Non, vous cherchez toujours attendre à corrompre les membres de la CENI. Non. Il y a un parti politique qui a accès au pouvoir, il y a des mécanismes, ils doivent mettre en place des mécanismes et des stratégies qui vont leur permettre de gagner les élections par les urnes. Et que nous ayons les élections démocratiques.
Libre et apaisé. Merci
beaucoup. Nous prétendons être une démocratie.
Voilà. Donc nous retenons. Voilà. Merci beaucoup, Franklin. Merci beaucoup, Franklin. Nous retenons que vous saluez d'ailleurs de demain cette réforme et vous y mettez quelques inquiétudes, hein, et vous avez fait quand même quelques propositions par rapport à la question. Nous prenons Brejnev qui est à Bandundouville. Brejnev, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Brejnev.
Merci, monsieur Pierrot. Je salue d'abord le professeur Jean-Pierre Mouébois, que j'entends souvent parler avec son expérience sur la radio Kati. Bon, à mon avis, moi je pense que ce n'est pas la première fois que la RDC a organisé les élections, soi-disant libres et démocratiques, transparentes. Mais je crois que nous acheminons peut-être petit à petit vers la troisième élection. Après la première expérience qu'on a vécue avec l'ancien président qui était et le prêtre là, Abbé Malumalu, qui nous a déçus, presque tout le monde, même nous les catholiques. Et voilà, la deuxième expérience était avec le pasteur Ngoï Moulunda, qui a presque déçu surtout les chrétiens, et en particulier les protestants.
Oui, Brejnev. Voilà. Oui, allons droit au but, parce que là nous parlons des conditions pour la réussite de cette réforme. Qu'est-ce que vous proposez?
La société civile, dans son intégralité, dans toute la composition de cette commission, pour permettre qu'on puisse voir la première élection, c'était purement politique parce qu'il y avait des hommes politiques. La deuxième élection, la même chose. Et la troisième élection, maintenant, on peut avoir vraiment des bons cœurs, des données que quand même la société civile aussi puisse maintenant voir organiser cette élection pour que nous puissions voir effectivement si la société civile va demeurer éternellement comme qui va
oui, Brejnev, on va vous
aussi peut-être dans d'autres pays.
Oui, Brejnev, s'il vous plaît, Brejnev, on va vous aider un tout petit peu parce que parmi les innovations, il faut noter qu'il y a déjà là la création de l'Assemblée plénière comme organe de conception, d'orientation et de contrôle de la Commission électorale nationale indépendante, l'implication effective de la société civile comme troisième composante à côté de la majorité et de l'opposition, la désignation en toute autonomie des membres de la Commission électorale nationale indépendante par les composantes selon les quotas définis par la loi, le processus décisionnel de la Commission électorale nationale indépendante qui se fonde sur les consensus et au nombre de ces innovations, on figure également la présidence du bureau de la CENI et de l'Assemblée plénière confiée à un membre de la société civile. Donc là, je crois que vous rejoignez le point de vue de Maître Machaka qui parlait tout à l'heure de la dépolitisation de la CENI. Je crois que par rapport à toutes ces innovations, on pourrait tout de même aller vers ces objectifs-là. Merci beaucoup, Brejnev, d'avoir appelé à Bandundouville. Freddy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Freddy, vous êtes avec nous à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Vier.
Voilà, vous avez également la parole, Freddy.
Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci d'avoir m'accordé la parole. Ce que moi, je demande, je remercie d'abord cette forme. Je demande, on voudrait d'abord mettre les gens de la société civile, même quatre ou de la majorité, trois de l'opposition. Ça peut être comme ça.
Bon, c'est déjà... Oui, en fait, c'est déjà au niveau des parlementaires qui se sont mis d'accord par rapport à cette question. Je crois que comme le processus est en cours au niveau du Sénat pour le toilettage, pour une deuxième lecture, je crois qu'à ce niveau, donc, je crois que les innovations... Restons plutôt dans ce débat au niveau des innovations. Quelles sont les conditions, selon vous, hein, Freddy, pour la réussite de cette réforme?
Le problème qui est là pour la réussite, il faut ces gens-là qu'on a engagés, qu'ils travaillent correctement. Comme il y a la campagne, de recensement, de changement de mentalité, il faut ces gens-là qu'ils changent de mentalité, qu'ils respectent la vérité des îles. C'est ce qu'on demande.
Voilà, Freddy, je crois que nous serons un peu clairs à ce niveau. Vous proposez que les personnes qui seront désignées soient des personnes qui ont l'expertise, ont l'expérience par rapport à la question électorale pour qu'on arrive à organiser dans les jours à venir des élections libres, démocratiques et apaisées. Merci beaucoup, Freddy. Nous prenons Diédoné qui est à Mahagui. Bonjour, Diédoné.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes. À tous les auditeurs de la radio Kati.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs Dieudonné. Est-ce que vous partagez leur avis ou, selon vous, quelles sont les conditions pour la réussite de cette réforme de la CENI?
Je commence d'abord par dire cette réforme est la bienvenue, mais il se pose deux ou trois questions que je me pose en tête pour savoir comment tout de suite trois personnes qui sont de la majorité et deux personnes qui sont de l'opposition peuvent tout de suite ici être indépendants et pourtant la balance maintenant ne cadre presque pas avec le plan de la société civile. Parce que bien que la société civile qui dirigera la CENI, vous voyez que le bilan n'est pas... Il y a vraiment moins le nombre insuffisant de
voilà.
Personne
de
la société Dieu donné, dans cette composition.
Est-ce que vous avez...
La question que moi j'ai...
Oui, Dieu donné. Avez-vous une idée sur le nombre de membres de la plénière?
Donc, suivant l'information que nous avons suivie sur votre antenne, la radio Capi,
oui.
Il y a la présidence de la CENI revient à la société civile,
oui.
Composée de trois de la majorité et deux de l'opposition. Voilà ce que je suis
à moi. Ben voilà, alors donc nous, on vous informe qu'il y a 13 membres de la plénière, soit 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Ben, il faut retenir que cette assemblée plénière constitue l'organe de conception, d'orientation et de contrôle de la commission électorale. Donc il y a 6, 4, 3 et la tête de la commission revient donc à la société civile. Voilà, Dieudonné, merci d'avoir appelé de Mahagui, 081-890-63-15 pour participer à ce débat.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sports toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19 heures, bienvenue dans Capissoir.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous revenons à vous, professeur Mbouéboa Kalala. Vous êtes analyste politique et notre invité du jour. Vous êtes avec nous, professeur. Vous avez suivi les uns et les autres. Et s'il faudrait résumer les inquiétudes des uns et des autres, donc là, il y a le problème de l'indépendance de la CENI qui revient souvent dans les inquiétudes des uns et des autres. Et on évoque également le problème du budget qui pourrait être aussi un élément très important pour renforcer encore l'indépendance de cette organisation. Dites-vous, professeur.
Oui, c'est vrai, le budget, c'est un problème important pour l'indépendance de la CENI, mais vous savez aussi que dans les pays, c'est toujours le gouvernement qui doit mobiliser les ressources et le mettre à la disposition des différents services pour l'exécution. Je ne crois pas que la CENI devrait avoir la tâche de chercher elle-même l'argent comme tel. Mais le gouvernement congolais doit mettre à disposition de la CENI le fonds dont la CENI a besoin et attend pour que la CENI fasse correctement son travail. Alors la CENI que nous avons eue jusqu'à présent, je ne crois pas qu'elle a mal fonctionné faute d'argent. Je crois que le gouvernement s'est toujours acquitté d'une manière ou d'une autre de cette obligation-là de disponibiliser les ressources lorsque la CENI en avait eu besoin. Et parfois, il y a aussi la communauté internationale qui nous vient
qui en appui,
en aide. Donc, dans ce sens-là, je crois que la CENI, en termes financiers, ce n'est pas ça le blocage. Mais c'est comme les autres là qui parlent, effectivement, il y a un problème de crédibilité de la personne. C'est pour cette raison-là que nous devons aussi mettre l'accent sur la neutralité, la moralité, l'intégralité de ces gens-là qui seront désignés. Donc il y a effectivement la compétence dans le domaine de l'organisation des élections, mais je pense qu'en pratique, lorsque les différentes composantes doivent désigner les membres du bureau, ils doivent aussi regarder l'intégrité de la personne, parce que notre pays souffre beaucoup de la question de moralité. Je pense que si on désigne des gens qui ont une certaine indépendance d'esprit, qui ont une certaine moralité, je crois qu'il y a quand même des minimums en deçà duquel ces gens-là ne peuvent pas accepter de descendre. Ça, ce serait déjà un élément important. J'aimerais aussi ajouter le fait que désormais, il y a aussi la femme. La loi a aussi donné un quota réservé à la femme. Chaque composant doit désigner au moins une femme. Ça voudrait quand même aussi dire qu'on voudrait mettre aussi à contribution la femme. Et je pense que les tempéraments féminins, avec aussi le caractère des femmes, ça peut aussi venir aider un peu ces hommes à travailler un peu autrement qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. Donc c'est aussi, encore une fois, une question de désigner des gens qui méritent bien d'entrer à la CENI, en sachant que la CENI doit aider à ce que ce pays ait des dirigeants, des animateurs, qui sont les animateurs désignés vraiment par la population et qui font le travail en rendant compte au peuple. Donc, je pense que les auditeurs qui ont soulevé la question du budget ont raison, parce que la CENI doit avoir les moyens financiers dont elle a besoin pour faire son travail, mais à ma connaissance, ce ne sont pas les limites budgétaires qui ont fait que la CENI puisse être décrié. Donc, je crois que le gouvernement a toujours fait un effort pour mettre à la disposition de la CENI les ressources. Peut-être qu'on peut insister sur la nécessité de mettre ces ressources à temps. Mais on ne pourrait pas imaginer qu'il en soit autrement, que la CENI puisse avoir l'argent autrement, sinon de les chercher au niveau du gouvernement. Et cet argent n'appartient pas à des individus qui sont au gouvernement, c'est de l'argent de la République qui est géré par le gouvernement comme partout au monde. C'est le gouvernement qui gère les ressources et qui doit les mettre à disposition des services qui se mettent au service de la communauté. C'est normal.
Voilà. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Assemblée nationale a le pouvoir de suivi, contrôle au processus de la désignation des délégués par les différentes composantes?
Exactement. C'est au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça l'avantage d'un parlement dans un pays. Le parlement, vous avez les différentes forces qui ont été élues, qui se retrouvent là-bas, qui doivent faire des discussions ouvertes et qui doivent prendre des décisions en toute responsabilité. Donc, au niveau du Parlement, c'est au niveau du Parlement que cette question de désignation va se faire, et c'est à ce niveau-là que nous insistons pour que les parlementaires ne puissent pas plonger le pays dans la désolation en désignant des gens qui n'ont pas la carrière, qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas les profils nécessaires. Donc, les parlementaires doivent s'abstenir de chercher d'être d'abord eux-mêmes les membres de la CENI, parce que ces parlementaires sont déjà là avec chacun une appartenance politique, ils sont acteurs politiques, s'ils peuvent faire un effort de se dépasser et désigner parmi leurs composantes des gens qui peuvent en toute indépendance agir dans l'intérêt de toute la nation. Ça, c'est important.
Alors, au regard de la configuration actuelle de la société civile, est-ce qu'on peut dire, est-ce que la population peut avoir confiance en ce processus de désignation qui selon le souhait, est vraiment doit être autonome? Est-ce que on peut imaginer que cela peut être le cas?
Oui, normalement, vous savez, la société civile est toujours là. Je sais que dans notre pays, la société civile, par le passé, a été souvent l'objet de manipulations ou de tentations ou de postes politiques. Mais je pense que cette société civile existe et qu'elle peut désigner des gens en toute transparence. Parce que là aussi, chaque composante doit faire montre de son attachement à la démocratie, au respect des règles. Et donc, dans ce sens-là, je crois que dans la loi, ils ont déjà indiqué plus ou moins les profils des gens qui devront postuler pour être désignés au niveau de la société civile. Et selon ces profils, je crois que les organisations qui sont engagées dans le cadre des élections sont connues. Ce sont ces ASBL ou ces organisations de la société civile qui seront certainement appelés à proposer des gens que la société civile devra adopter. Mais je sais que là, l'unanimité pose quand même problème, mais il y a quand même des individus de la société civile qu'on connaît, qui ont toujours travaillé dans ce domaine-là des élections, et qui peuvent être invités à faire leur travail en toute responsabilité.
Dominique est à Kinshasa et Deli est à Kananga. Bonjour Dominique.
C'est le journaliste.
Voilà, vous avez la parole, Dominique.
Ok, alors, je voudrais juste argumenter dans le même ordre avec les compatriotes qui ont déjà parlé.
Qui vous ont précédé.
Juste pour en parler à propos de la dénomination de la Commission nationale indépendante. Juste avant la dénomination, je me rends compte que à suivre les processus d'attribution des tâches de tous les membres qui composent cette commission, ça sera juste une mission échouée. Parce que on nous a dit que c'est une commission qui doit être pratiquement indépendante. Mais avant que non, il y a déjà une certaine répartition, soi-disant, des gens de la majorité, ceux de l'opposition et ceux de la société civile. Or, c'était peut-être une commission qui pouvait être juste gérée par les membres de la société civile. C'est juste pour alors promouvoir cette indépendance de la commission. Mais du fait qu'ils sont il y a une commission qui est déjà composée de plusieurs membres de l'opposition ou de la majorité, je trouve que ça sera pratiquement une mission difficile pour eux. Alors, ça incarne encore une certaine vision qui nous dira que non, avec l'avenir, ça ne pourra pas réussir. Donc, d'après moi, je trouverais que c'est déjà une commission nous disent à rien que non, il y aura cette
question. Alors, qu'est-ce que, Dominique, selon vous, on peut faire? Quelles sont les conditions? C'est ça la question, en fait, du débat aujourd'hui. Quelles sont les conditions pour la réussite de cette réforme?
Oui,
vous avez vu les tâches réparties. Alors, qu'est-ce que vous recommandez?
Oui. Ce que je dirais à la réforme, ça sera que chacun respecte alors la mission qu'il a
lui assignée.
On sait qu'ici, on voit par exemple, en premier, l'intérêt de la population. Chacun pourra peut-être essayer d'oublier son appartenance politique juste pour promouvoir l'intérêt de la nation. C'est dans ce sens qu'on peut être avoir quelque chose, avoir un résultat escompté pour l'intérêt de la nation.
Merci
donc,
beaucoup.
Juste un appel à la conscience de tout un chacun pour faire disparaître la position ou la réparation
politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir appelé de Kinshasa. Deli, vous êtes à Kananga. Bonjour, Deli.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Kamonga Kanaoui.
Voilà, Dominique, tout à l'heure, elle appelait à la conscience des uns et des autres, hein, et surtout à la conscience des politiciens, pour extirper un peu les clivages politiques et privilégier l'intérêt national, surtout dans la désignation des membres qui vont animer l'assemblée plénière de la CENI. Deli, est-ce que vous partagez son avis, ou selon vous, vous avez peut-être d'autres conditions pour la réussite de cette réforme?
Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire un peu certaines observations. D'abord, il se pose un problème de désignation des membres de la société civile qui feront partie du bureau de la CENI. Parce que nous savons très bien que le meilleur des membres de la société civile, dès le moment où ils sont nommés au bureau, là, ils changent directement des positions, ils viennent, ils prennent par exemple la position de la majorité. Et puis, de deux, je présente aussi des craintes dans le sens que parmi les 13 membres qui vont composer la plénière, 10 sortiront de la majorité et 4 de l'opposition, ce qui risque de sacrifier encore la crédibilité de cette commission. Alors, pour répondre à votre question, je crois que cette ligne-là est déjà votée. Les membres qui seront déjà élus là, moi je dois compter sur la volonté et sur l'esprit du patriotisme. Ils doivent aimer d'abord le Congo, ils doivent travailler pour le compte de l'intérêt général. C'est ce qui est un peu exacté comme contradiction.
Merci beaucoup, Deli. La loi a été votée, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et poursuit son processus normal. Et à ce niveau, se trouverait au Sénat pour toilettage. Donc, merci beaucoup, Deli, d'avoir appelé. Nous prenons Madame Caroline qui est à Guémena. Bonjour, Caroline.
Oui, bonjour, bonjour à l'invité.
Voilà, c'est tout un plaisir pour nous d'avoir une dame qui intervient dans cette question sur la loi de la réforme de la CENI. Vous avez la parole, madame, comme vos prédécesseurs ont émis aussi le souhait de voir cette réforme aboutir à un succès plein. Et vous dites quoi, vous, madame?
Oui, j'ai bien suivi les amendements et tout ça, mais je voulais vous parler, vous demander aussi que la personne qui pourra gérer la CENI doit normalement avoir une expérience. Mais si vous demandez une expérience, moi je veux demander à l'invité, monsieur Maloumal qui a géré la CENI des il a dit quelle expérience?
Bon, nous nous parlons aujourd'hui de la réforme, c'est-à-dire la loi, il y a eu la loi passée, maintenant il y a eu quelques innovations qu'on a apportées, donc c'est pourquoi nous avons posé la question sur les conditions selon vous. Il y a quelques-uns, c'est-à-dire des auditeurs qui ont parlé de l'expérience, selon eux, ils estiment que celui qui peut être maintenant, en tout cas à la tête de la CENI, doit avoir une expertise sur la question électorale. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Je ne partage pas de point de vue.
Oui.
Ah, c'est voilà pourquoi je vous demande la personne qui a géré, les deux personnes qui ont géré la CENI.
Ça c'est passé.
Moi,
ça,
je trouve ceci.
Voyons maintenant l'avenir.
Oui, moi, je trouve ceci. Ça serait tout simplement, cette loi-là, cette réponse-là est la bienvenue. Et moi, je préférerais qu'il y ait des adéquations pendant les élections. On ne peut pas s'en passer parce que moi, je m'étais. Même si on change, même si on met les autres personnes qui pourront gérer la CENI. Mais si ces personnes-là n'ont pas de confiance, s'ils n'ont pas de compatriotes, nous allons déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Moi, je suggérerais qu'il y ait toujours des observations pendant les élections, et que ces observations-là soient des observateurs étrangers, et que l'Église catholique soit aussi parmi les observateurs, et ça pourra nous aider. Parce que même si on fait des réformes, et nous avons plusieurs lois dans notre pays, et toutes ces lois ne sont pas respectées. Même les parlementaires qui sont dans la santé là, ne respectent pas les lois que eux-mêmes votent. Donc moi, je culturel, il y a toujours des observateurs.
Voilà, vous rejoignez d'ailleurs Maître Machaka qui avait proposé la dépolitisation de la CENI et aussi l'assistance des observateurs. Merci beaucoup Madame Caroline Aguemena. Nous prenons Bénin qui est à Kinshasa. Bonjour Bénin.
Bonjour JR.
Voilà, vous avez la parole Bénin.
Oui JR, j'ai suivi beaucoup d'auditeurs là-bas, mais je dis qu'il faut arrêter de tourbillonner dans la répartition, le conflit de répartition. Le problème réside au niveau de la confiance et de l'honnêteté politique. Parce que la CENI ailleurs dans d'autres pays, elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. Et s'il faut partir de nos hypothèses, opposition, majorité, chaque ministère dans tout le pays du monde appartient à la majorité, donc au pouvoir. Et parce que ces pays-là sont conscients et ont l'honnêteté politique, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère et parfois ils réussissent les élections. Vous venez de suivre le cas au Ghana et ailleurs. Donc, pour moi, parce que nous avons tous décrié que M. Moulunda et aussi Maluma en 2006 n'ont pas réussi parce qu'il y a eu des irrégularités, laissons la chance à la nouvelle réforme. Évitons un certain pessimisme. Sinon, on va toujours avoir des pays où on change des choses, on les déplore et lorsqu'on les change, on continue encore à argumenter négativement. Comme la majorité se retrouve, d'ailleurs les auditeurs qui sont à côté de moi ici disent la majorité est gourmande et surtout qu'elle a déjà gagné la législative et la présidence, les restes n'ont pas assez de valeur, voilà pourquoi ils ont accepté la société civile. Peut-être qu'ils prendront aussi parole, malheureusement il n'y a pas de temps, mais qu'à cela ne tienne, tout réside au niveau de l'honnêteté politique parce que pour moi, on peut, si les dirigeants congolais étaient responsables, la CENI pouvait même appartenir, même à un parti politique, même ça c'est une supposition. Mais lorsqu'on est conscient de nos responsabilités politiques, surtout honnête si on veut faire avancer le pays, tous ces débats ne seraient pas à ce niveau. Donc pour moi, je résume, pour que ça avance, on laisse comme on a réformé, ce sont nos représentants des deux chambres qui ont réformé, la société civile qui a été déplorée pour qu'elle soit impliquée est déjà impliquée. On les laisse la chance, mais il faut accentuer sur leur honnêteté politique et la conscience. Voilà ma
Voilà, Bénin, merci beaucoup d'avoir appelé le Kinshasa. Vous avez dit qu'autour de vous, il y a quand même des gens. Vous êtes dans quelle commune actuellement?
Pour le moment, je suis à Matete.
Et vous avez tout autour de vous des gens qui suivent en ce moment par les auditeurs.
Beaucoup de jeunes là qui suivent attentivement et qui déplorent peut-être voilà. Malheureusement.
Malheureusement, on ne peut pas accorder la parole à tous, mais nous sommes de cœur avec eux, donc nous les félicitons, hein, qui restent quand même fidèles à nos programmes. C'est vrai qu'ils participent aussi à ces débats. Question de pouvoir participer aussi à la chose publique. Donc voilà. Donc comme qui dirait, merci beaucoup Bénin. Nous retenons que vous souhaitez vous saluer de demain cette réforme, mais vous souhaitez qu'il y ait vraiment une conscience de part et d'autre, de la part de l'opposition et de la part de la majorité. Voilà, nous nous tournons du côté de notre invité, professeur Mbouéboua Kalala, analyste politique, mais tout en vous rappelant, pour participer à ces débats, il faut composer les 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va à présent conclure avec notre invité, professeur Mbouéboua Kalala, analyste politique. Professeur, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les auditeurs de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à leurs préoccupations?
Voilà, je crois que le dernier intervenant a présenté un point de vue qui tient compte de plusieurs paramètres. Je peux même aussi ajouter le fait que la CENI dont nous parlons, ce sont les membres qui sont désignés pour gérer la tête de la CENI, mais elle-même est aussi soutenue par un service administratif, un service technique. Donc il y a le secrétariat exécutif national et qui descend aussi au niveau provincial et au niveau de chaque ville à l'antenne. Je suis en train de relever cet élément pour dire qu'il y a des techniciens, il y a des gens qui ont été formés, surtout à l'époque de l'abbé Malumalu, donc en 2000, pour les élections de 2006. Ces gens ont été envoyés dans différents pays pour suivre les processus et qui ont maîtrisé la technique pour organiser des élections correctes, etc. Je pense que la présence de ces gens-là, n'est-ce pas, garantit au niveau de la technique comment on peut organiser des élections correctes, des élections justes, des élections transparence. Alors, il y a toujours la dimension des volontés politiques que nous attendons aussi des acteurs politiques, particulièrement des parlementaires, pour que les parlementaires désignent les gens qui soient capables de travailler en toute indépendance, en toute neutralité. L'article 9 de l'ancienne loi n'a pas été modifié. Et cet article dit « La CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité, impartialité, des scrutins libres, démocratiques et transparents. » Et par rapport à cette mission qui n'a pas changé, les parlementaires, lorsqu'ils devront désigner les membres de la CENI, ils doivent tenir compte du travail de la CENI. La CENI doit organiser les élections qui garantissent à la nation, n'est-ce pas, des élections qui sont transparentes, qui sont apaisées, qui sont libres et démocratiques. Donc par rapport à ça, il y a déjà les indications, il y a des critères pour qu'on désigne des gens qui répondent à ces profils-là. Et lorsque ces gens arrivent, ils vont trouver les personnels administratifs qui ne doivent pas être politisés. Parce que dans la dernière CENI, ils ont pratiquement renvoyé beaucoup de ces gens-là qui ont été engagés en 2006, qui ont été bien formés, ce qui est une grosse erreur. Nous espérons que les nouveaux bureaux qui sera là vont recourir à ces gens qui sont formés pour que ces gens-là fassent le travail selon les serments qu'ils ont fait de faire un travail correct. Et ça, c'est important aussi.
Voilà, professeur Mbeba. Professeur Mbeba Kalala, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été de nôtre.
Merci.
Merci également à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot Elameji l'ont réalisé. Et J.R. Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Le programme de crédit du Fonds monétaire international FMI en RDC vient d'être évalué. Estimant que des progrès ont été accomplis sur le plan économique et financier par le gouvernement congolais, le FMI s'est dit prêt à redémarrer d'autres programmes d'aide et de coopération avec la RDC. Cependant, l'institution de Bretton Woods évoque dans cette évaluation les manques de transparence dans certains accords miniers. Nous en parlons demain. Prenez déjà rendez-vous avec nous.